France Inter.
Aujourd'hui, l'hydrologie régénérative, racontée par...
Charlène Descollanges, hydrologue et cofondatrice de l'association Pour une hydrologie régénérative.
Samuel Bonvoisin, ingénieur en agriculture et cofondateur de l'association Pour une hydrologie régénérative.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Au XVIIe siècle, dans un Paris grouillant d'ambition et d'intrigue, les rumeurs vont bon train. On parle d'un homme qui ne court ni les salons littéraires, ni les cours des rois, mais qui observe le ciel et mesure les gouttes d'eau, un certain Pierre Perrault. Ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, son frère est le conteur Charles Perrault, mais Pierre, lui, n'écrivait pas d'histoire pour endormir les enfants. Il posait des questions simples qui dérangeaient les savants de l'époque, comme d'où vient l'eau des rivières. Aujourd'hui, la réponse paraît évidente, de la pluie, mais à l'époque, la science en doutait. On pensait que l'eau douce venait des océans, qu'elle s'infiltrait dans les entrailles de la terre, puis ressortait sous forme de source, une sorte de plomberie naturelle mystérieuse et incontrôlable. Pierre Perrault, lui, observe et expérimente. Il installe des récipients pour mesurer la pluie, étudie le débit de la Seine, calcule la surface des terres arrosées et compare. Et les chiffres parlent. Il tombe bien assez de pluie pour alimenter les rivières. Pas besoin d'océans souterrains, pas besoin de magie. En 1674, il publie un petit livre qui va changer la donne de l'origine des fontaines. Dans ce texte, il renverse des siècles de croyances et fonde une science nouvelle, l'hydrologie. Il explique que l'eau qui ruisselle, s'infiltre ou s'évapore suit un cycle. Et ce cycle est mesurable, compréhensible, prévisible. Il introduit des idées simples mais révolutionnaires, le bassin versant, l'évaporation, la limitation de l'infiltration dans les sols, la rétention d'eau en surface. Il écrit même cette phrase étonnante, ce sont les rivières qui font les fontaines, et non les fontaines qui font les rivières. Plus de trois siècles après ces mesures de pluie et ces controverses avec les savants de son temps, l'héritage de Pierre Perrault reste vivant. Non seulement il a fondé une science, mais il a surtout lancé une manière de penser l'eau comme un cycle et non comme une ressource illimitée. Pierre Perrault aurait été sans le savoir l'inspirateur d'une discipline, l'hydrologie régénérative, qui porte en elle une promesse, celle de redonner à l'eau toute sa place dans nos sols et nos écosystèmes. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Charlène Descollanges et Samuel Bonvoisin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Êtes-vous d'une certaine manière les enfants de ce premier hydrologue Pierre Perrault, Charlène Descollanges.
Ce serait très prétentieux, mais oui, on peut. Ah. Après cette présentation, y rêver un peu.
Ouais.
Moi, ça me plaît, et ça me plaît aussi de me connecter à Charles Perrault, parce que je pense qu'on a besoin de se raconter des histoires aussi.
Ouais. Oui. Donc vous prenez les deux frères.
Voilà, c'est ça.
Charlène Descollanges, il a vraiment été un précurseur de l'hydrologie et de la connaissance des cycles de l'eau en France, Pierre Perrault. Hein.
Oui, j'ai entendu son nom pour la première fois sur les bancs de la fac, donc je l'honore aussi par ce biais-là, et aussi un autre précurseur qui était Darcy, qui a fait toute des recherches sur les fontaines et qui a ensuite fait cette loi, la fameuse loi de Darcy, qui a inspiré ensuite beaucoup d'autres scientifiques sur comment circulent les fluides sur la Terre. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que Pierre Perrault s'est aussi associé avec Edmé Mariotte, qui était un scientifique spécialiste de la biologie végétale. Et en fait, à deux, ils ont permis de mettre le doigt sur quelque chose qui nous intéresse particulièrement autour d'hydrologie régénérative, à savoir l'évapotranspiration, cette eau qui est transpirée par les plantes et qu'on appelle l'eau verte.
Est-ce qu'eux avaient déjà énoncé ce mot évapotranspiration ?
Pas encore, il faut attendre 200 ans plus tard pour que la première équation d'un Américain, Tantouette, qui essaye d'estimer, et c'est encore toujours délicat de le faire, d'estimer les flux évapotranspirés par les végétaux.
Donc leurs travaux ont été essentiels à cette science que vous incarnez tous les deux aussi. Aujourd'hui, Samuel Bonvoisin, vous qui publiez ce livre « Cultiver l'eau douce, du jardin de pluie à l'hydrologie régénérative », donc des solutions pour régénérer nos écosystèmes, c'est aux éditions Ulmer. Cette science de la régénération, c'est celle des cycles de l'eau douce, Samuel Bonvoisin, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis fils d'agriculteur, et donc cette histoire de cultiver...
Dans quelle région ?
Je suis né dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, plus exactement. Voilà. Et c'est vrai que dans une région où l'agriculture est très, très présente, aussi une forme d'agriculture qui a évolué énormément ces dernières décennies. Et cette histoire de cultiver, pour moi, cultiver, c'est vraiment dans le sens de prendre soin, dans le sens aussi d'essayer de mieux comprendre et d'accompagner des mécanismes naturels. Et en l'occurrence, c'est essayer de l'appliquer à l'eau, tout simplement.
Ouais, et vous êtes dans la Drôme aujourd'hui, hein ?
Et aujourd'hui, dans la Drôme, voilà, donc changement de décor, changement d'ambiance, un territoire beaucoup plus sec, hein, aux portes de la Provence, et avec des grosses problématiques aussi autour des rivières, on en parlera un peu.
Charlène Descollanges, vous êtes dans quelle région, vous, de votre côté ?
Et moi, je suis en Chartreuse.
Ouais, donc entre Chambéry et Grenoble ?
Voilà, c'est ça. À peu près une autre montagne qui est très karstique et qui a aussi de plus en plus de problématiques d'eau.
Ces dernières années, environ la moitié de la population mondiale a connu une grave pénurie d'eau pendant au moins une partie de l'année, et un quart a même été confronté à des niveaux extrêmement élevés de ce qu'on appelle le stress hydrique. La question de l'eau aujourd'hui, elle est évidemment absolument cruciale. Samuel Bonvoisin, avec le changement climatique, est-ce que l'on peut parler d'une rupture de ce cycle naturel de l'eau d'ailleurs ?
Oui, alors en fait, il y a plusieurs cycles de l'eau. Hein. On a introduit tout à l'heure le thème de l'eau verte. Donc c'est un des concepts, l'eau bleue, donc l'eau qui est visible, celle qui est présente dans les océans, les mers, les lacs, les rivières. L'eau verte qui, elle, est présente dans les sols et dans la végétation. Hein. Mm-hmm. On doit ça à Malin Falkenmark, une hydrologue suédoise, qui fête d'ailleurs ses 100 ans cette année. Et en fait, ces deux cycles, le cycle de l'eau bleue et de l'eau verte, on sait aujourd'hui qu'on a franchi les limites de ces cycles-là. Donc ils ne fonctionnent plus aussi bien qu'auparavant, et ça fait peser des risques importants pour l'habitabilité de notre planète, puisque comme on le sait, la vie est dépendante directement de la présence d'eau douce sur les continents.
Donc une des nouvelles limites planétaires franchies.
Exactement, la sixième.
Ouais, avec ces cycles de l'eau, donc c'est un enjeu absolument majeur, Charlène Descollanges, de survie à l'heure évidemment où on observe des phénomènes de plus en plus intenses.
Alors ça, ce sont vraiment les premières manifestations du changement climatique, mais en fait qui viennent révéler des désordres de fond qu'on a occasionnés sur ces deux cycles de l'eau verte et de l'eau bleue. En tant qu'hydrologue, nous, on ne s'intéresse qu'à celui de l'eau bleue, mais de plus en plus, et grâce aux travaux notamment de Malin Falkenmark, on regarde que les sols, quand ils sont dégradés, ne remplissent plus leur fonction d'éponge, de ralentisseur naturel, d'infiltration. Et en fait, l'ensemble de nos activités ont dégradé ces cycles de l'eau au point d'en avoir franchi les limites planétaires. Et le changement climatique va venir exacerber tous ces effets entre des extrêmes secs et des extrêmes intenses, humides, avec des précipitations qui vont s'abattre d'un coup, d'importantes quantités, et donc qui posent la question du ralentissement.
Absolument. Et déjà, de nombreux endroits sur Terre ont vécu ces événements avec tout d'un coup des quantités d'eau majeures qui arrivent. Et votre rôle à tous les deux, avec celles et ceux évidemment qui s'intéresse à cette hydrologie régénérative, c'est quoi ? C'est de montrer qu'on peut ralentir, en tout cas, ces transformations, et qu'il y a, Samuel Bonvoisin, vraiment des solutions adaptées à la fois à notre époque et à nos territoires.
Oui, en fait, la clé, c'est vraiment de reconnecter l'aménagement du territoire et les cycles de l'eau. Le malheur un peu de la façon dont sont transmis aujourd'hui les connaissances sur les cycles de l'eau, c'est que la plupart d'entre nous, ce qu'on a retenu des cycles de l'eau qu'on a appris en CE1, CE2, c'est que l'eau vient des océans et qu'elle est chassée par les nuages et qu'elle retombe, etc. Et donc, ça donne le sentiment que finalement, tout ça est une histoire qui nous échappe, qui se passe très très loin de nous, et on a du mal à percevoir finalement la portée de la façon dont nos paysages sont aussi responsables en grande partie des cycles de l'eau, à travers différentes notions qui sont très connues et qui ont émergé avec la climatologie moderne, dont le recyclage continental des précipitations par exemple, donc cette part importante de l'eau verte dans les cycles de l'eau. Et donc la façon dont on a fait évoluer nos paysages ces dernières années, ces dernières décennies, mais en fait depuis très longtemps si on y regarde un peu, depuis l'Antiquité même, on accélère un peu les cycles de l'eau, on entraîne l'eau plus vite vers le bas des pentes de différentes manières.
Charlène Descollanges, c'est-à-dire qu'il faut revoir nos manuels scolaires sur le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on a tout faux, en fait, dans ce qu'on nous a enseigné.
Alors ça, c'est une étude de 2019 qui montre que nos schémas et nos représentations du cycle de l'eau sont complètement déconnectés de la présence humaine et de l'interaction avec ces cycles.
Ce qui est problématique, parce qu'on voit le rôle que les activités jouent aujourd'hui, justement, sur ces cycles.
Voilà, en termes de pollution, de changement climatique, d'accélération, de drainage, etc. Et ça, en fait, si on ne pose pas ces enjeux, ces problèmes, on n'apporte pas des des solutions. Et un des enjeux qui est complètement absent, et c'est ce que a dit à l'instant Samuel, c'est notre absence de dépendance et d'interaction avec l'eau verte. Et l'eau verte, elle est, quand elle est altérée à travers la déforestation, l'agriculture intensive, l'artificialisation des sols, entraîne ce phénomène de drainage où l'eau de pluie ne s'infiltre plus, elle est évacuée le plus vite possible et plus loin possible à la mer. Et ça, c'est vraiment le reflet aussi de nos modes de vie et de consommation.
L'eau verte, donc, vous parliez de l'évapotranspiration tout à l'heure des végétaux, hein, par exemple, ou des arbres. Ça joue, Samuel Bonvoisin, un rôle concret dans les précipitations, par exemple, sur les continents ?
Oui, tout à fait. On considère à l'échelle planétaire que environ les deux tiers des pluies continentales viennent directement de cette végétation et de ces sols. Alors évidemment, ça cache des disparités régionales très très fortes, hein, puisque la Chine, par exemple, est dépendante à 90% d'eau verte, là où chez nous, le ratio est plutôt inversé, plutôt deux tiers d'eau bleue, un tiers d'eau verte. Et puis, évidemment, après, il va y avoir des réalités encore plus localisées en fonction des types de sols, en fonction de la pente, etc. Mais disons que dans l'ensemble, ce qu'il faut mieux réaliser, qu'on ne réalise pas encore, c'est à quel point les paysages qui nous entourent sont au cœur des cycles de l'eau.
Donc concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on abat un arbre, on enlève aussi un des mécanismes naturels de l'eau ?
Oui, alors dans notre histoire récente, ça se passe par beaucoup de choses. Ça s'est passé alors, en agriculture par le remembrement, le fait qu'on a arraché. Donc simplement, en tant que rappel, hein, le remembrement en France, c'est 750 000 km de haies qui ont été arrachées, soit la moitié des haies du pays. C'est 1 million de pièces d'eau, des mares, des étangs, etc., qui ont été comblés. C'est l'assèchement de la moitié des zones humides du pays. Donc c'est une modification qui est énorme, finalement, de la capacité de nos paysages à garder l'eau, à retenir l'eau, à lui permettre de s'infiltrer, à lui permettre aussi de se stocker directement dans les sols, puisque dans le même temps, les sols se sont dégradés. En tout cas, la présence de matière organique dans les sols, elle a diminué. Et la matière organique dans les sols, on sait que c'est une des clés pour pouvoir garder l'eau.
Alors là, il y a urgence évidemment à reprendre en considération ces cycles de l'eau, Charlène Descollonges, parce qu'on voit effectivement que du stress hydrique, il y en a partout sur la planète aujourd'hui, et que donc il va falloir faire très attention à ce qu'on fait sur nos territoires, parce que concrètement, ça agit sur cette ressource vitale en eau.
Hein. Effectivement, autant, alors le climat, c'est quelque chose de très important, mais ça se place à l'échelle globale. On voit bien que le sujet de l'eau, c'est très local, ça touche la vie des gens, ça parle, tout le monde est connecté à une rivière, un bassin versant et connaît un peu les sources, ou en tout cas je vous invite à le faire, mais c'est vrai que ça parle tout de suite à la vie des gens. Et nous, c'est pour ça qu'on s'adresse à l'échelle du territoire, parce que c'est la bonne échelle pour en parler.
Et pour agir aussi.
Et pour agir.
Pour trouver des solutions.
À l'échelle du bassin versant, puisque c'est l'unité de base en hydrologie. Mais bon, on se rend compte que tout est lié. Et c'est ça l'aventure qu'on essaie de raconter, c'est de dire qu'il ne faut pas regarder les choses de manière cloisonnée.
Ouais.
Il faut vraiment regarder en transversalité.
C'est malheureusement un sujet qu'on connaît mal encore, qui nous a passionnés, je dois dire, avec Lucie Sarfati, en préparant cette émission, découvrir ce qu'on peut faire autour des cycles de l'eau à travers cette discipline. L'hydrologie régénérative, on va en parler avec vous.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Est-ce que chaque dimanche, des agriculteurs et des éleveurs de toutes les régions d'Australie et d'autres pays viennent également sur une propriété à North Richmond, en Nouvelle-Galles du Sud, pour apprendre de nouvelles méthodes d'agriculture auprès d'un homme qui n'est même pas agriculteur? Cet homme, l'ingénieur des mines et homme d'affaires P.A. Yeomans, et ses théories pourraient révolutionner les méthodes de production primaire de l'Australie. Sur ce type de terrain désespérément pauvre, Yeomans a mis ses idées en pratique. De nouvelles méthodes de conservation de l'eau, des drains collectants pour de grands barrages et de nouvelles méthodes de culture ont créé du sol au lieu de provoquer l'érosion.
Une archive de 1956 de la télévision australienne, traduite par Jean-Philippe Verret, Charlène Descollonges et Samuel Bonvoisin. Vous êtes hydrologues, tous les deux nos invités. Alors, ce personnage, justement, de Yeomans, il est très important dans l'histoire de l'hydrologie régénérative.
Oui, alors Yeomans, il vient mettre, on va dire apporter un peu une version moderne de ce que finalement les humains ont fait pendant très longtemps, c'est-à-dire essayer d'organiser le fait d'utiliser l'eau pluviale pour essayer d'accompagner le vivant, et donc de végétaliser, de créer du sol, etc. Et ça, c'est vraiment une des clés pour comprendre l'hydrologie régénérative, c'est que, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à essayer de transformer l'eau de pluie pour essayer de faire en sorte qu'elle puisse nous profiter au maximum au développement de la vie.
Comment on doit entendre transformer l'eau de pluie
Typiquement, l'eau, on sait que si elle est gardée, si elle est maintenue et qu'elle est intégrée au sol, si elle est stockée directement dans le sol, si elle va vers les nappes phréatiques, elle va pouvoir être utilisée par la végétation au printemps pour pouvoir faire de la pousse de végétation et donc de créer de la biomasse, de stocker du carbone. Mm-hmm. Cette biomasse, c'est aussi ce qui va permettre de faire l'effet éponge dont on va avoir besoin ensuite pour stocker encore plus d'eau. Et donc on voit qu'il y a quelque chose de vertueux finalement dans ce que la vie fait spontanément sur les continents et qui est finalement déjà cette histoire de cultiver l'eau. Donc quand on parle...
Et c'est ce qu'a fait ce monsieur australien, Humans, en fait.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à rebours des pratiques d'hydrologie, on va dire modernes, qui visaient à conduire l'eau d'un point A à un point B pour essayer de gérer des flux et des stocks, il a proposé finalement d'essayer de faire en sorte de faire à sa manière, à la manière des humains, ce que fait la vie, c'est-à-dire essayer de garder l'eau le maximum pour pouvoir créer du sol, pour pouvoir faire en sorte d'avoir encore plus de capacité à stocker l'eau dans le futur.
Et c'est exactement ce que vous essayez de faire aussi à votre niveau, puisque le cœur de cette hydrologie régénérative, Charlène Descollanges, c'est... Alors, il y a quatre mots majeurs, ralentir, infiltrer, réhydrater et évapotranspirer, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ralentir, infiltrer, stocker l'eau dans les sols et paysages, et évapotranspirer.
Ça, ce sont vos piliers, on va dire.
Nos piliers. Maintenant, on en a un petit dernier, je ne sais pas si on peut l'annoncer. Allez, on le fait.
Il y a un scoop terre au carré.
Mais il n'est pas dans le livre de Samuel, parce qu'en fait, c'est une des réflexions récentes, et vu que c'est récent, on est toujours...
Allez-y.
Eh bien, c'est diversifié.
Ouais.
Et finalement, la diversification, on la retrouve dans les cycles de l'eau verte et dans les cycles de l'eau bleue. Et en fait, c'est un pilier aussi fondamental que tout le reste, parce que effectivement, comme vient l'expliquer Samuel, c'est que le vivant, depuis des millions d'années, s'est organisé pour garder l'eau, la labyrinthiser, pour reprendre une expression de Baptiste Morisot, et de faire en sorte que il y a toujours de l'eau pour créer de la vie. Et en fait, c'est ça le concept de régénération, c'est de faire en sorte de développer des techniques, des aménagements qu'on n'a pas inventés, mais qu'on reprend en fait de certaines inspirations pour garder l'eau dans les sols et activer des processus de régénération. Et ça, en fait, on n'est pas... en tant qu'hydrologue, comme l'a expliqué Samuel, effectivement, on nous apprend à dimensionner des ouvrages de stockage, à la canaliser dans des tuyaux. Et là, l'hydrologie régénérative, ça nous demande de nous décentrer pour se mettre au cœur du vivant.
Il faut sortir des tuyaux,
c'est
sûr.
On sort du tuyau pour la diffuser dans les milieux terrestres et les milieux vivants. On n'est plus dans un intérêt seul... centré sur les humains, mais aussi en la partageant avec l'ensemble des militaires.
On va essayer de parler aussi concrètement, parce que c'est aussi des exemples que vous donnez dans votre ouvrage, Samuel Bonvoisin, cultiver l'eau douce. D'ailleurs, vous parlez de cultiver, c'est marrant ce terme pour l'eau, non ? On cultive de l'eau ?
Oui, c'est vraiment cette... Alors, il y a d'abord l'idée un peu de frapper les imaginaires, c'est-à-dire d'abord dans le livre, on... alors je dis on parce qu'on est donc trois co-auteurs, avec Antoine Talin et François Goldin, des alvéoles, peut-être on reviendra un petit peu après sur les alvéoles. On a pris le parti d'abord d'essayer d'expliquer un petit peu d'où tout ça vient, finalement. Et cette histoire de cultiver l'eau, en fait, c'est vraiment cette observation que, si on regarde la dynamique de la vie depuis 400 millions d'années sur les continents, la vie cultive l'eau, c'est-à-dire qu'en fait, elle, petit à petit, elle crée des conditions pour qu'il y ait encore plus d'eau douce disponible pour la vie et donc encore plus de vie qui puisse se déployer sur les continents. C'est vraiment cette idée-là, c'est pour ça qu'on parle de cultiver l'eau. Alors, ça peut donner le sentiment qu'on va multiplier l'eau comme des petits pains, c'est un peu plus subtil que ça. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée-là, quoi, qu'en prenant soin de l'eau et des cycles de l'eau douce, on va pouvoir faire en sorte d'en avoir plus à disposition. Et notamment par le ralentissement. Et donc, ça, c'est vraiment une des clés.
Ralentir quoi ? L'écoulement de l'eau, en fait,
l'écoulement de l'eau, voilà. On parle aussi de ralentissement dynamique de l'eau, puisque l'idée, c'est pas d'arrêter l'eau à la manière des barrages. On est plutôt dans des logiques d'essayer de faire en sorte que l'eau ait plus de temps pour s'écouler lentement, qu'elle ait donc plus de temps aussi pour s'infiltrer, qu'elle ait plus de temps pour être utilisée par la végétation, par la faune
donc stocker,
des sols.
Il y a aussi l'aspect stockage qui est important.
Voilà, directement dans les sols. Quand on parle de stockage, c'est vrai que dans notre pays, on a tendance en ce moment à imaginer
bassines,
forcément des gros ouvrages, etc. En hydrologie, l'horlogerie régénérative, quand on parle de stockage d'eau, on parle de stockage d'eau directement dans les sols, directement dans les nappes, directement dans la végétation elle-même, qui est composée en grande majorité d'eau.
Et ça, ça profite à tout le monde.
Et ça, ça profite à tout le monde. Et donc là, on n'a plus de problématique de gouvernance de pour qui, pourquoi et dans quelles conditions.
Est-ce que Charles-Lenné Collonges, les techniques d'hydrologie régénérative, et je vais vous demander de nous citer quelques exemples concrets, peuvent vraiment s'appliquer partout, aussi bien dans un grand champ agricole que dans un jardin, voire un balcon? Est-ce qu'il y a toutes les échelles possibles?
Alors, d'abord, pour revenir un peu sur cette histoire du concept d'hydrologie régénérative, là, je fais honneur aussi à notre troisième cofondateur de l'association, Simon Ricard, qui a étudié énormément d'inspiration dans le monde et qui a essayé de traduire en langage français ce que ça pourrait donner. En fait, ça a donné le terme d'hydrologie régénérative, mais qui s'inscrit dans ces sciences de la régénération. Et très concrètement, en fait, si on applique cette vision de rendre l'eau au milieu terrestre, de s'appuyer sur le vivant pour le faire et d'appliquer ces principes, eh bien, on peut le faire absolument partout, en fait. On peut le faire dans les écosystèmes forestiers, en s'appuyant sur les logiques de la forêt, qui, en étant diverse dans ses essences, dans ses modes de gestion, eh bien, va réactiver ses processus de l'eau verte, va garder l'eau dans les sols.
Mais comment
etc.
concrètement? Alors, j'imagine la forêt, je la visualise, mais comment est-ce que je peux agir sur l'eau?
Je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai rencontré un forestier de l'ONF dans l'Aube, dans un petit village de Rumilly-les-Vaudes. Je le salue au passage, il se reconnaîtra. Et il a expérimenté des techniques pour reméandrer un petit ruisseau forestier. Il y en a plein en France, des petits ruisseaux forestiers qui ont été rectifiés, simplifié en construisant toutes les grandes routes forestières. Et en fait, il a, au lieu de le faire à la pelle mécanique, mis simplement des ouvrages en bois, des branches d'arbres. Et ce faisant, il a réallongé le ruisseau forestier de 1 km linéaire. Et en ralentissant de manière dynamique les écoulements du petit ruisseau, il a laissé l'eau s'infiltrer, moins de dépérissements forestiers, moins d'inondations dans le petit village de Rumilly-les-Vaudes. Et au final, il en a fait presque une école où de nombreux forestiers viennent apprendre ces techniques-là qui sont low-tech et qui permettent de ralentir les écoulements et en même temps de réamorcer ces circuits de l'eau verte avec des essences diversifiées.
Avec des effets sur la biodiversité locale aussi, j'imagine, autour de ce méandre, parce que ça agit sur tout le milieu, au fond.
Au bout de la première année, il y a déjà des amphibiens qui ont élu domicile dans les petites mares qui se créaient. Ils ont réouvert des zones humides, etc. Donc oui, effectivement, il y a plein de choses qui arrivent après.
Ouais, ce qui est assez réjouissant, Samuel Bonvoisin, c'est ce qu'on voyait d'ailleurs, puisqu'on est allé dans la Drôme il y a quelques temps de cela avec la Terre au Carré, c'était dans cette ferme du Grand Laval, où vraiment les processus de retour de la nature vont très très vite, dès lors que, précisément, non seulement on lui fout la paix, mais où on installe d'autres façons, des mares par exemple, mais ce travail de l'eau, c'est ça aussi, et avec un résultat très rapide quand même.
Oui, alors pour un agronome comme moi, c'est vrai que c'est stupéfiant. On est presque un peu jaloux, nous, les agronomes, parce que c'est vrai que quand on travaille à essayer d'améliorer des systèmes agronomiques, donc typiquement de remettre de la matière organique dans les sols, de recréer la vie dans les sols, c'est des processus qui sont en général un peu plus lents, qui mettent disons 3 à 5 ans pour recréer ces écosystèmes-là. Alors que dès qu'on travaille avec l'eau, c'est quasiment immédiat. En fait, on voit tout de suite, dès qu'on a fait un ouvrage de ralentissement dynamique de l'eau dans une ferme ou même dans un jardin, en fait, à la première pluie, ça y est, l'eau ne s'écoule plus, l'eau est stoppée, arrêtée, elle va avoir du temps pour s'infiltrer, ou la mare se remplit. Et donc, quelque chose de très immédiat et de très joyeux, finalement, à travailler avec l'eau.
Donc, on peut travailler autant avec des jardiniers que des agriculteurs, des paysagistes, des citoyens. Tout le monde peut vraiment tester ça.
Ouais, c'est ça. Alors, la bonne échelle pour le faire, c'est l'échelle du bassin versant, dans le sens où c'est l'échelle où on va être le plus efficace. Mais on n'a pas besoin d'attendre que les choses se fassent de façon coordonnée.
Vous nous rappelez ce qu'est un bassin versant, parce que ça paraît évident, mais pas forcément.
Alors, je vais... Ouais,
vas-y, Charlène.
Le bassin versant, c'est la cuvette qui est délimitée par les reliefs. Voilà, une goutte de pluie, quand elle arrive sur une couvette, dans cette cuvette, va rejoindre un hydrosystème, la rivière, puis les plus grandes rivières et jusqu'au fond.
Merci pour la précision.
Voilà, donc on n'a pas besoin d'attendre que les choses se fassent à l'échelle du bassin versant. On peut très bien déjà le faire chacun à son échelle. Donc moi, j'invite tout le monde à simplement déjà à regarder comment l'eau circule. Si vous avez un petit jardin, comment l'eau circule dans votre jardin.
On va y revenir dans un instant.
Voilà,
on va y passer un peu de temps, parce que c'est vraiment important de le décrire.
Super.
On verra que chaque goutte d'eau de pluie est une ressource. C'est très important.
Exactement.
Et on va voir comment le mettre en place avec vous.
Exactement.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Ralentir le cycle de l'eau en réaménageant le lit des rivières, comme c'est le cas de la Bièvre en région parisienne. Sortie de son lit de béton, elle a été reméandrée sur près d'une vingtaine de kilomètres.
d'un canal très droit avec du béton et de la terre, on est venu réélargir le lit principal de la rivière pour lui redonner vraiment sa place. Et en plus de l'écologie, on fait de la protection contre les inondations parce qu'au lieu d'aller tout droit très vite, on donne du méandre et de la place de débordement tout autour de nous. Là, la rivière va pouvoir déborder, ça gêne personne. Si elle accélère et qu'elle va dans la ville, c'est plus embêtant pour les populations.
Un extrait de l'émission Silence, ça pousse sur France 5. Charlène Descollonges, Samuel Bonvoisin, spécialiste de l'hydrologie régénérative. Samuel Bonvoisin, un exemple avec donc, la Bièvre en région parisienne.
Bah oui, magnifique. En plus, la Bièvre, elle porte très bien son nom parce que Bièvre, voilà, c'est la racine de castor qui donne tous les noms en beuvre, breuve, etc. Je crois que...
Vive les castors, Charlène Descollonges aussi.
Ah, mais les castors...
On peut les faire bosser d'ailleurs pour nous aider à...
Ils le font déjà.
À régénérer l'eau.
Ils le font déjà et ils sont entre 15 000 et 25 000 individus en France, une belle évolution depuis 100 ans, où il ne restait plus qu'une dizaine d'individus sur le Rhône.
Ouais.
Donc il y a une grosse dynamique, et évidemment, on s'en inspire beaucoup pour ralentir les flux d'eau dans les rivières, mais aussi reconnecter la rivière avec sa nappe. En fait, la rivière, c'est juste une partie immergée de ce qu'on ne voit pas sous nos pieds. Et une rivière, elle est connectée à sa nappe, et elle est connectée à une zone humide, et elle est connectée à une forêt alluviale. Et en fait, le castor, lui, il a une sorte de lunette qui permet de voir cette eau invisible, et il reconnecte la rivière avec cet ensemble-là. Et il fait revenir la vie. Et il fait ça depuis des millions d'années. Donc nous, les ingénieurs hydrologues, finalement, on a peut-être un peu de savoir.
C'est ça, grâce au castor.
Voilà, à avoir avec le castor.
Ouais. Samuel Bonvoisin, vous avez un laboratoire d'expérimentation, ça s'appelle les alvéoles. Ça, c'est dans la Drôme, justement ?
Tout à fait,
c'est
oui,
là que
oui.
Vous testez vos idées.
Oui, exactement. Alors, les alvéoles, c'est à la fois une pépinière agroforestière. Donc, c'est-à-dire qu'on produit des arbres pour des systèmes agroforestiers, donc remettre des arbres dans les systèmes agricoles. C'est aussi un centre de formation pour tout public sur les sujets en lien avec l'arbre, le sol, etc. Et puis, c'est aussi un bureau d'études en architecture du paysage. Voilà. Et une auberge depuis quelques semaines maintenant qui s'est montée. Et en fait, c'est vraiment un lieu laboratoire dans le sens où on y pratique depuis une dizaine d'années l'hydrologie régénérative pour d'abord nos propres besoins, produire des arbres, et puis aussi pour pouvoir faire un lieu de démonstration, un lieu aussi pour pouvoir enseigner ces pratiques.
Ouais. Par où on peut commencer d'ailleurs pour, par exemple, un paysagiste, un jardinier, un agriculteur qui serait intéressé? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Il faut faire une sorte d'analyse du sol pour commencer à imaginer agir sur les cycles de l'eau?
Oui, alors il y a deux grandes manières de travailler. Il y a une manière qui est assez simple et directe, qui est de travailler à partir des désordres existants. Donc si on a de l'érosion, par exemple, sur son terrain, si on a des endroits où on a des problématiques de sécheresse, etc., ben, on peut commencer par là, simplement pour essayer déjà de regarder cette situation-là avec ce regard particulier qui est l'hydrologie régénérative. Et puis après, il y a une autre manière qui est plus holistique, plus globale, qui est de regarder l'ensemble du bassin versant dans lequel notre terrain est situé, d'essayer de voir comment circule l'eau dans cet espace-là, et puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a fait aussi, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été transformé. Souvent, on a drainé, on a aménagé des fossés au bord des routes communales ou départementales, on a asséché des zones humides, on a drainé, et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus équilibré entre le besoin agricole, qui est souvent de pouvoir cultiver, donc de pouvoir rentrer dans les parcelles au printemps, etc. Donc il ne s'agit pas forcément de perdre tous les bénéfices qui ont été ceux des aménagements passés, mais en même temps aussi de favoriser le maintien de l'eau le plus possible et son infiltration au plus proche de là où elle est tombée.
Donc Charlène Descollonges, on peut poser d'abord un diagnostic. Vous parlez de cartographier les chemins de l'eau, par exemple, sur un terrain. Ça veut dire quoi? On fait appel à quelqu'un pour ça?
Alors, on peut le faire soi-même. En fait, c'est assez simple. On regarde, on va sur le site Géoportail. On situe sur une carte IGN et là, on voit les courbes de niveau qui permettent d'indiquer le niveau de l'altitude, quoi. Et ce faisant, on arrive à tracer ce fameux bassin versant. Avec des petites vidéos tuto qui sont sur Internet, on arrive à retracer ce chemin de l'eau, on va dire naturel, sans l'influence de l'homme. Mais il faut tenir compte, effectivement, de ce que disait Samuel, les chemins artificiels. Lorsqu'il y a un fossé, quelque chose qui draine l'eau, il faut en tenir compte. Et donc, ces chemins de l'eau, ils sont importants pour comprendre comment circule de la goutte d'eau, en fait, quand elle ruisselle.
Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment de choisir des aménagements efficaces, justement, pour transformer cette goule d'eau en quelque chose qui va devenir une ressource précieuse pour le, pour
ouais,
le terrain.
C'était tout le génie de Yeomans, de l'Australien dont on a parlé tout à l'heure. Il a vraiment travaillé sur cette réflexion de à quel endroit dans le paysage est-ce qu'il faut mettre des petits ouvrages de ralentissement dynamique de l'eau pour essayer de limiter au maximum le risque d'érosion et de favoriser au maximum l'infiltration de l'eau. Et donc voilà, c'est finalement une science assez, personnellement je trouve assez facile à apprivoiser et assez je pense qu'il y a quelque chose d'assez chouette finalement à se réemparer de ce sujet-là. Ça permet aussi de pouvoir se rendre compte que la gestion de l'eau, c'est pas qu'une affaire d'experts, et ça c'est un sujet qui est important pour nous, que ça peut être aussi tout un chacun finalement chez soi. On peut jouer entre guillemets à essayer d'infiltrer plus l'eau chez soi.
Alors il y a plein d'exemples que vous donnez dans votre ouvrage Cultiver l'eau douce, comme par exemple l'idée de créer un jardin de pluie. C'est quoi un jardin de pluie ?
Ah oui, c'est beau en plus cette expression. Ah oui.
Alors le jardin de pluie, c'est vraiment très simple. C'est une petite zone, comme un petit creux, une petite déclinivité qu'on peut créer sur son terrain.
C'est pas une mare, hein ?
Alors c'est pas une mare. Alors ça peut s'apparenter à une mare temporaire. Dans le sens où on va pas chercher à imperméabiliser, au contraire. Mm-hmm. Ce qu'on veut, c'est favoriser l'infiltration. Et donc on va y mettre des plantes hydrophiles, des plantes qui aiment être régulièrement, patauger régulièrement. Mm-hmm. Et puis on peut diriger soit des eaux qui ruissellent sur le terrain, soit éventuellement ces eaux de toiture aussi, donc on peut débrancher les systèmes de collecte des eaux pluviales et les connecter à ce petit jardin de pluie, de manière déjà à faire sa part dans le ralentissement dynamique de l'eau.
Donc Charlène Descollonges, en fonction des caractéristiques du sol, il y a plein de stratégies qu'on peut explorer pour essayer de créer de la régénération.
Oui, effectivement, on a parlé on a parlé beaucoup d'eau bleue, mais dans l'hydrologie régénérative, il y a ce triptyque eau, sol, arbre, donc on a parlé des cheminements de l'eau. Le deuxième pilier, c'est celui des sols. Et en fait, on se rend compte qu'on connaît pas très bien notre sol. Alors, il y a des tests très simples qu'on peut faire chez soi, hein, le test du boudin pour voir le taux d'argile, le niveau d'argile qu'on a dans son sol.
Ouais, il y a des questions d'ailleurs à ce sujet-là de la part des auditeurs.
L'idée, c'est de vraiment bien connaître son sol pour voir comment, à quelle vitesse il infiltre, s'il est riche en matière organique, et ça permet ensuite d'avoir plein de stratégies pour la ralentir ou la répartir en fonction du type de sol qu'on a chez soi.
Il y a des programmes qui sont en route déjà en France, Samuel Bonvoisin, sur l'hydrologie régénérative.
Alors, depuis 2022 et la création de l'association pour hydrologie régénérative, il y a pour l'instant 5 territoires pilotes qui ont été identifiés en France. Donc, ce sont des territoires qui sont tous sur le bassin versant du Rhône, puisqu'en fait, il y a un soutien aussi de l'agence de l'eau. Rhône Méditerranée Corse sur ce programme. Donc, ce sont des communes, des communautés de communes, des agglos qui ont décidé de s'engager dans cette voie. À l'échelle territoriale.
Charlène Descollonges, il y a un enjeu aussi majeur pour interpeller les élus qui font face très souvent, de plus en plus souvent en tout cas, à des inondations aujourd'hui. Mmh. Et ça peut les aider précisément à trouver des solutions.
Absolument. Si on veut passer à l'échelle, en fait, il faut effectivement s'adresser à l'échelle de la communauté de communes ou la collectivité qui ont ce pouvoir de à la fois agir sur l'aménagement du territoire, le schéma d'eau potable, d'assainissement, l'agriculture. En fait, ils ont plein de leviers sur lesquels ils ont plein de cartes à jouer, quoi, si on peut dire. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse à ces maillons-là. Et il y a une chose qui, pour nous, est essentielle, c'est cette question du dialogue. Le dialogue territorial, puisque l'eau ne connaît pas de frontières, elle va traverser un champ, elle va traverser une forêt, elle va traverser un jardin. Donc l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table.
Allez, on va répondre aux questions, car elles sont très nombreuses et nous avons 5 minutes devant nous. Adèle nous dit, j'avais l'impression qu'en stockant l'eau de pluie, on tend à assécher les rivières, mais ce que j'entends me fait douter, c'est une bonne idée de stocker l'eau plutôt que de la laisser s'infiltrer. Samuel Bonvoisin.
Alors Adèle, en fait, il y a deux choses vraiment qui sont vraiment importantes. La première, c'est que le premier réflexe qu'on peut avoir quand on est en situation de sécheresse, c'est d'essayer de capter un volume d'eau, généralement une cuve d'un mètre cube qu'on va mettre sous sa gouttière pour essayer d'avoir de l'eau pour plus tard. Ça, c'est un réflexe que je comprends, qui est très humain. Et en fait, si l'ensemble de tout ce qui va pleuvoir le reste de l'année, une fois que la cuve est pleine, finit quand même dans la collecte des eaux pluviales et évacuée vers le bas des pentes, finalement, on n'est pas encore dans le le domaine de la régénération, dans une logique d'adaptation, c'est-à-dire j'ai moins d'eau et donc j'essaie d'en collecter pour pouvoir en avoir un peu plus au moment où j'en aurai besoin. Et donc pour rentrer dans une vraie logique de régénération, il faudrait combiner cette cuve ou ce stockage avec du stockage dans les sols pour pouvoir faire de la matière organique.
L'un n'empêche pas l'autre. Quand même.
Il faut faire les deux. En fait, on ne peut pas uniquement s'adapter, il faut aussi régénérer.
Michel dit, j'espère que vous irez jusqu'à évoquer la nécessité de faire évoluer l'organisation de la gestion de l'eau pour mettre en œuvre et activer des processus de régénération. On est sur le terrain politique.
Oui, il y a beaucoup de choses à l'interface de ces politiques. Il y a la question de l'agriculture, du modèle agricole. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est un enjeu énorme. La forêt, les rivières. Je dirais que nous, l'intention qu'on pose, c'est pas de créer autre chose, c'est de vraiment rassembler tout ce qui se fait déjà en fait sur les territoires et de montrer qu'on a plein de leviers autant en forêt, en rivière, dans l'agriculture pour régénérer ces cycles de l'eau.
Oui. Benjamin dit, concernant la circulation de l'eau dans la nature, beaucoup de personnes pensent à stocker l'eau de leur toit dans les cuves, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Dominique souhaiterait créer une petite mare dans son jardin, comment doit-il s'y prendre? Bassin cimenté ou argile bentonitique?
Alors moi j'invite vraiment la plupart des gens qui réfléchissent à la création d'une mare à considérer la possibilité de faire des ouvrages qui soient des mares temporaires et pas des mares permanentes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un sol qui retient l'eau naturellement, je vous invite vraiment à pas chercher à la rendre étanche et plutôt à favoriser l'infiltration. Ça vous évitera de mettre du plastique, ça vous évitera des problématiques liées à l'étanchéité de votre mare. Et en plus de ça, d'un point de vue biodiversité, la biodiversité des mares temporaires est au moins aussi intéressante que celle des mares permanentes. C'est pas la même, c'en est une autre. Et donc on peut aussi avoir envie d'attirer cette biodiversité-là.
Jean-François dit, on constate que dans les 10 dernières années, l'IGN a supprimé des mares existantes sur les cartes. N'est-ce pas une manière de réduire leur protection, Charlène Descolonges?
Alors, c'est vrai qu'on a un rapport aux mares qui est très particulier. Dans un mouvement hygiéniste, on les a surtout drainées. On les associe à des maladies, aux moustiques, et en fait, ce sont des milieux à castors aussi. Et en fait, on se rend compte maintenant qu'avec le changement climatique, on a besoin de ces zones humides qui sont capables de faire éponge en temps de crue et de relarguer de l'eau en temps de sécheresse, de stocker du carbone, d'accueillir de la biodiversité, rafraîchir les villes, etc. Ouais. Donc on peut, ces jardins de pluie, on peut aussi les faire en ville.
Marie-Lise demande si l'hydrologie régénérative fonctionne sur les sols argileux également qui retiennent beaucoup l'eau. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure.
Oui, alors il y a des pratiques, on les décrit un petit peu dans le livre, mais qui sont spécifiques aux sols hydromorphes, c'est-à-dire aux sols qui retiennent l'eau, et donc on va forcément pas s'y prendre exactement de la même manière que si on est en sol sableux. On va chercher parfois à emmener l'eau vers certaines zones pour essayer de recréer des milieux humides, les fameux milieux humides qui ont disparu pendant la période du remembrement.
Nicolas demande, est-ce qu'on peut collectivement repenser nos usages de l'eau pour les toilettes? 6 litres gaspillés pollués à chaque chasse d'eau, rappelle-t-il.
Ah, c'est très compliqué, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question aussi rapidement. Il y a plusieurs manières. Alors effectivement, on peut utiliser l'eau de pluie, mais il faut installer un deuxième compteur pour l'assainissement. Au mieux, on peut passer aux toilettes sèches. Et puis après, effectivement... se dire que quand on habite en ville, on n'a pas beaucoup d'autres leviers que de rester connecté au réseau collectif.
Pour l'instant. Même si on voit apparaître aussi en ville parfois des propositions de toilettes sèches. Hélène demande, ça sera notre conclusion, ce qu'il faut faire en bref, dit-elle, c'est exactement le contraire des méga-bassines.
Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de fantasmes autour de l'hydrologie régénérative. On prétend pas, en tout cas, à ce stade, et on n'a pas assez de recul pour pouvoir dire qu'on va pouvoir se passer d'ouvrages, sans parler de méga-bassines, mais en tout cas d'ouvrages de stockage d'eau. Nous, on plaide pour qu'il y ait une vraie réflexion sur le stockage d'eau dans les sols, pour retrouver des vraies capacités de nos sols à pouvoir continuer à produire, parce qu'on ne pourra pas, de toute façon, passer à l'irrigation sur 100% de la surface agricole de notre pays. Et donc, voilà, c'est un plaidoyer pour de la matière organique et de l'eau dans nos sols.
Merci beaucoup à tous les deux parce que c'était absolument passionnant de découvrir ce sujet. Cultiver l'eau douce du jardin de pluie à l'hydrologie régénérative, des solutions concrètes pour régénérer nos écosystèmes. C'est aux éditions Ulmer, Samuel Bonvoisin. Et puis Charlène Descolonges, Agir pour l'eau, c'est un autre ouvrage que vous avez publié aux éditions Tana Éditions. Merci à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier.